Bonjour. Alors ce matin, je vais vous parler de l'ascension. C'est vrai que c'est peut-être pas très original puisque c'est ce qu'on vit maintenant, mais en même temps, je crois qu'on a aussi des choses à découvrir. De Noël à l'ascension, c'est comme ça qu'on pourrait finalement résumer la vie de Jésus. De Noël à l'ascension. Pour nous, ça dure quelques mois, pour lui, ça a duré plus de 30 ans. Pourtant, l'ascension, c'est une fête chrétienne qui passe presque inaperçue. Peut-être parce que Jésus est devenu justement l'inaperçu pour ses disciples. Il est monté au ciel. L'ascension, voilà. Jésus, il a fini son mandat sur terre. Il part, il prend ses bagages. Puis on peut se demander, mais où va-t-il? Et surtout, quand reviendra-t-il? Alors avant de lever nos yeux pour contempler Jésus qui monte, qui s'élève, je vous propose de plonger nos regards dans les textes qui parlent justement de l'ascension. À la fin de son évangile, Luc nous parle de l'ascension du Christ. En Luc 24, 48 à 53. Jésus a dit, « Vous en êtes témoins. Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les emmena jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Luc a écrit en fait une deuxième lettre. Il s'agit des Actes des Apôtres. La fin de l'évangile de Luc et le début des Actes des Apôtres reprennent justement sous un angle différent l'ascension de Jésus. Alors c'est intéressant de voir ce deuxième texte puisque quelque part ils sont complémentaires et ils ont été écrits par le même auteur. Acte 1, 1 à 14. « Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi, avec beaucoup de preuves, qu'il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. » Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? » Ah non, c'est pas ça. Ils lui ont dit, « Seigneur, est-ce ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée le déroba de leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, mais pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, le zélote, et Judas, le fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière, avec des femmes, et Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. Le récit de l'ascension dans l'évangile de Luc, on l'a vu au début, il est très court. Lui, il va à l'essentiel. Dans les actes, il y a un peu plus de développement, on donne un peu plus d'informations. Les disciples, on en a appris qu'ils ont été témoins justement de la mort et de la résurrection. Ils ont vu, ils ont pu voir ses mains, ils ont pu voir les marques, ils ont vu les pieds, ils ont vu Jésus ressuscité. En même temps, Il partait, il revenait. Il se disait, mais c'est vraiment un corps qu'il a. Il a mangé devant eux, donc ils l'ont vu. Il était là, vivant et ressuscité. Ils ont été témoins de son départ. Jésus les conduit là, à l'écart maintenant, au temps de l'ascension, près de Béthanie. C'est à quelques kilomètres, en fait, dans les environs de Jérusalem. Et là, Jésus, il les bénit. Jusque-là, on peut se dire, tout est assez ordinaire. Jésus est avec eux, il les bénit. Nous ne savons pas, finalement, quelle parole de bénédiction Jésus leur a dit. On aurait bien voulu qu'ils l'écrivent, mais non. Pourtant, Jésus, en faisant ça, il s'inscrit dans une longue tradition biblique. Dieu a béni Adam et Ève lors de la création, puis Noé et sa famille suite au déluge, puis Abraham lorsqu'il a été appelé à quitter son pays, et ensuite les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob, chacun, ils ont aussi béni leurs enfants avant de partir. Alors la bénédiction du Père, elle est importante dans l'Ancien Testament. Et Jésus reprend donc ce geste ancestral et quelque part il l'actualise, il les bénit. Par cette bénédiction, Jésus communique la bienveillance et la protection divine. En bénissant, Jésus se fait reconnaître comme don de la présence, nous le dit le philosophe Jean-Luc Marion. Il y a donc quelque part un paradoxe parce que celui du retrait et du don et celui de l'absence et de la présence. Jésus les bénit et en même temps il leur rappelle une promesse. Le Père vous a promis quelque chose. Il leur a promis que dans quelques jours, là il leur dit, il ne dit pas c'est dans un mois ou dans longtemps, dans quelques jours vous allez être revêtus d'une puissance d'en haut. Mais les disciples, comme on l'a vu dans le texte, eux ils sont intéressés à autre chose. Eux ils sont intéressés au royaume mais pas vraiment à recevoir la promesse du Père. Et là, pendant que Jésus les bénit, il se détacha d'eux, il s'éleva vers le ciel. Je me suis demandé, mais est-ce que les disciples étaient surpris de le voir comme ça, tout d'un coup, s'élever? Car Jésus ne leur a pas annoncé, aujourd'hui, là, maintenant, pendant que je vous parle, imaginez si moi je m'élevais, là, je restais coincée au plafond, ce serait quand même un peu bizarre, quoi. Mais non. Alors ils vivent cette séparation. Celui qui a été présent pendant toutes ces années, qui les a accompagnés, tout d'un coup, c'est l'absent, il devient l'absent, il est loin d'eux. Dans Acte 1, on voit que les disciples, justement, eux, ils restent attachés à leurs attentes, que Jésus établit son royaume sur la terre. Mais Jésus leur fait comprendre que là n'est pas l'essentiel. Parfois, nous aussi, on peut avoir des attentes, des rêves, puis Jésus, des fois, il nous ramène à l'essentiel. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont recevoir dans quelques jours, le baptême du Saint-Esprit. Anthony Perrault, il va nous en parler dimanche prochain, il ne faut pas rater. C'est cette prochaine prédication. Alors la promesse du Père, il y a une promesse, il y a aussi d'envoyer l'Esprit Saint, les paroles de bénédiction qui reçoivent, et Jésus qui s'élève, tout ça. Ça donne vraiment l'impression d'un départ définitif. Les disciples regardent Jésus s'élever, disparaître derrière les nuages. Cela semble quand même irréel. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui s'élève. Les ballons, oui, on a l'habitude de voir peut-être des ballons s'élever, mais pas un être humain. Et pourtant, en même temps, je me suis dit, mais les disciples, ils devaient avoir en tête Enoch. Enoch et Élie qui sont partis comme ça, rejoindre leur Père céleste. Deux séparations, deux réactions. Lorsqu'on vit une séparation, et particulièrement quand il s'agit d'une personne qu'on aime et à laquelle on est attaché, on ressent généralement de la tristesse. On est triste de la voir partir, de peut-être plus pouvoir lui parler, de plus être en sa présence. Alors que ce soit une séparation de longue durée ou que ce soit lors d'un décès, généralement, on ressent un vide, un manque. Mais là, les disciples, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Les disciples, eux, ils sont joyeux. Ils sont joyeux, ils sont dans une attitude d'adoration. Mais quel contraste! Alors pourquoi? Pourquoi sont-ils joyeux? Comment ils peuvent être joyeux que Jésus soit parti? Est-ce que, je me suis dit, c'est la bénédiction qu'ils ont reçue? Ils ont reçu une parole tellement forte que ça les a rendus joyeux? Ou est-ce que peut-être ils ne vivent pas ce départ comme une séparation? Parce qu'il y a eu quand même 40 jours avant. 40 jours avant, ils ont vu Jésus mourir sur la croix. Et la mort de Jésus, c'était cette fois-ci une séparation brutale, inattendue pour les disciples. Jésus leur avait pourtant annoncé son départ, il avait fait son possible pour préparer leur cœur. Il leur avait dit, mais que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vous prépare une place dans ma maison. » Il leur avait dit plein de paroles. Pourtant, les disciples, après la crucifixion, ils se sont cachés. Ils ont eu peur, ils sont restés enfermés sur eux-mêmes, tellement la souffrance était grande de perdre si vite leur maître, celui qui était leur ami, leur Seigneur. Ils étaient tristes et certainement leur vie avait perdu aussi de son sens. Qu'allait-il devenir ? Leur rêve de voir un royaume s'établir était tout d'un coup effondré. Ils étaient même peut-être tentés de retourner à leur ancien métier. Pendant ces 3 jours où Jésus était au tombeau, ils ont vraiment vécu l'absence de Jésus. Puis, il y a eu la grande surprise de la résurrection. Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. Waouh ! Et il s'est montré à eux, il les a relevés et il leur a donné sa paix. Lors de l'ascension de Jésus, cette fois, c'est quelque part une deuxième à leur séparation pour les premiers disciples. Jésus ressuscité, il s'en va dans la paix vers la maison de son Père. Alors cette fois, pour les disciples, c'est une séparation vécue dans la joie. Jésus a pris soin de se détacher progressivement. Moi, ça me faisait penser à mon enfant. Quand on les emmène à la crèche, les enfants, on y va tout doucement. On les emmène un jour, une demi-journée, un petit moment. Ben là, c'est aussi là. Jésus s'est montré à eux et il s'est remontré, mais il partait, il revenait, il partait. Comme pour dire un peu, je m'en vais, mais pas encore tout de suite. Puis, une fois, c'était quand même le moment. Du visible à l'invisible. Dans les actes, les disciples restent comme scotchés sur la vision de Jésus s'élevant au ciel. Je pourrais remettre cette image-là. Et puis là, on apprend dans le texte, ce sont deux anges qui viennent. Ça, c'est un peu paradoxal. Finalement, les anges qui sont au ciel, c'est eux qui les ramènent sur terre. Et qui leur disent, mais oh, il est parti. Il est parti, vraiment. Et il les ramène à la réalité. Alors, je trouve que c'est tellement beau parce que d'un côté aussi, il les rassure. Il leur dit, mais il va revenir. Bon, nous, on aurait tous voulu savoir quand. Même mon fils, l'autre jour, il me disait, quand est-ce que Jésus revient ? Mais ben, cette question-là, je ne peux pas répondre. Joker. Et pour les disciples, en fait, cette information de savoir qu'il va revenir, ça leur a suffi. Et eux, ils sont partis pour aller demeurer dans la prière. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est là la clé de compréhension aussi, de pourquoi ils étaient joyeux. La compréhension du texte et de l'attitude des disciples. Car finalement, qui vont-ils rencontrer dans la prière ? Qui vont-ils rencontrer finalement si ce n'est Dieu ? Les disciples passent de la présence visible de Jésus-Christ sur terre à la présence invisible de Dieu. Il reste dans l'attitude de prière et d'adoration. Finalement, quelque part, il ne le quitte pas. Comme on a lu, comme on a entendu aussi Jean-Pierre nous lire le texte, il était là et il est encore là, mais plus la même chose. Jusqu'à maintenant, ils pouvaient le voir, ils pouvaient lui parler, ils pouvaient partager un repas. Maintenant, ils peuvent continuer à s'adresser à lui. Et puis, moi, je me suis dit, mais nous aussi, finalement, on a développé toutes sortes de technologies pour rester présents lorsque nous sommes absents physiquement. Ça vous parle ? En fait, on a créé l'écriture pour rédiger des messages, les envoyer. Après, on a créé le télégraphe, on a le téléphone, l'ordinateur, toutes choses d'iPad et de choses que, finalement, nous aussi, on cherche toujours des moyens pour rester présent et en lien avec les personnes qui sont absentes physiquement. Je me suis dit, en fait, Jésus, il fait la même chose, mais en version 7.0. Lui, il n'a pas besoin d'outils de communication. Lui, il est là avec tout le monde en même temps, en tout temps, la nuit, le jour. Et lui, en partant, il nous a envoyé l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint pour demeurer en nous. Jésus, c'est vrai, il est absent physiquement. On ne peut plus le toucher et le voir, mais on peut lire ses écrits, sa parole. On peut lui parler et apprendre à l'écouter. De plus, dans le dernier chapitre de l'Évangile de Matthieu, il n'est pas parlé de l'ascension de Jésus. Mais ses dernières paroles à ses disciples étaient « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette parole, elle résonnait dans mon cœur quand je préparais cette prédication. Je me suis dit « Mais je ne peux pas parler de l'absence de Jésus puisqu'il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et puis je me suis dit « Mais même pendant ces 10 jours, en fait, entre l'ascension et la Pentecôte, ben, Jésus, il était là aussi avec eux. » Jésus nous assure de sa présence. Il nous confirme qu'il est bien présent avec nous. une présence invisible, certes, mais ô combien précieuse. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous pouvons dire, mais Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Et puis j'ai trouvé magnifique le chant d'avant, en fait, chaque jour aussi, on peut écouter sa voix. Chaque jour, on peut marcher avec lui. Jésus demeure présent. Il les avait préparés, ses disciples, à son départ. Avant même son arrestation et sa condamnation. Et à ce moment-là, ils avaient été tristes d'apprendre qu'il allait partir. C'est vrai que quand il y a l'ascension, on voit que la joie. Mais finalement, la tristesse, elle est venue avant. Je vais vous lire Jean 15. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi, je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas avec vous, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » On pourrait avoir l'impression que ce texte, il a été écrit, mais voilà, juste avant l'ascension. Puis non, en fait, il a été écrit avant déjà, avant la crucifixion. Et Dieu nous promet, et Jésus nous promet qu'il va envoyer justement le défenseur, le Saint-Esprit. Et il dit même que c'est avantageux qu'il parte. Je me suis dit, mais vraiment, c'est vrai, s'il restait Jésus, s'il était resté depuis 2000 ans, je ne sais pas, il aurait quel âge? Ça aurait été un peu compliqué finalement de rester comme ça. Nous, on aurait bien voulu, c'est vrai aussi le voir, mais ce n'était pas trop possible. Il a trouvé un autre moyen pour être présent avec chacun. Et puis en plus, il ne pourrait pas être avec tout le monde en même temps. Vous imaginez la foule de toutes les églises du monde entier, dans toutes les langues, attroupée au temps de Jésus. Je ne sais plus, je crois que j'ai lu une petite prédication, il disait, mais finalement, il faudra attendre des heures et des heures, voire des jours, puis on aurait une demi-seconde, hop, puis après c'est quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas la bonne solution. Et nous maintenant, Jésus, lui, il est retourné vers son Père. Il est assis à la droite de Dieu et il demeure présent et actif. C'est marqué qu'il intercède pour nous, il prie pour nous. C'est vrai que nous, on n'a pas eu le privilège justement d'aller le voir à Jéricho, à Jérusalem, ça aurait été sympa, à Nazareth. Puis il n'est pas venu non plus à Nyon, il n'a pas prêché au bord du lac, Léman, là, ça aurait été chouette, qu'il dise aux pêcheurs à Nyon, « Allez, jette ton filet de l'autre côté de la barque. » Mais pourtant, nous pouvons quand même lui parler. On peut lire ses écrits, on peut apprendre à marcher à sa suite. Et malgré les années qui ont passé depuis son ascension, ben, il est toujours présent dans notre cœur. À partir du moment où on l'accueille, on le reçoit, il est présent en nous. Puis je me suis rendu compte moi-même aussi sur mon cheminement spirituel qu'avec les années, ben, j'ai l'impression qu'il est plus présent. Alors lui, il n'est pas plus présent, c'est moi qui est plus consciente qu'il est présent avec moi. Au début, j'étais vite déstabilisée par ce qui pouvait m'arriver, par des pensées, par des soucis, par des choses qui étaient là, des ruminations qui restaient longtemps. Puis petit à petit, Jésus me montre, mais non, je suis là avec toi. Et ça m'encourage vraiment. Alors je ne dis pas que quand je prends du temps avec Dieu, il n'y a pas quand même des préoccupations, des choses qui m'entravent. Ma relation, ce n'est pas encore magnifique, tout rose et tout facile. On a chacun nos défis, mais on peut continuer d'avancer. Et puis plus on s'approche de lui, plus lui s'approche de nous. C'est même une promesse dans la Bible. Puis ça, c'est vraiment un truc qui m'aide. Quand des fois on a moins la motivation, je trouve que ça aide de se rappeler ces promesses que Dieu nous donne. C'est une grâce. C'est une grâce de savoir que quand je m'approche de lui, en plus, il me regarde avec un regard bienveillant. Il me dit, mais ouais, je t'aime, t'es là. Et Dieu, il est là avec chacun d'entre nous. Lui, il ne change pas. Et lui, il se rend présent à nous. Il est de la même manière avec nous qu'il était avec ses disciples. Il aimerait vraiment, par son esprit, être en communion avec nous. Et je me suis demandé, mais est-ce que nous rendons présents à lui? Est-ce qu'on prend le temps d'entendre sa voix, de laisser le Saint-Esprit nous parler, nous rappeler ses enseignements, les méditer? Ah, que lui, il fait un bon bout, puis nous, ce n'est pas toujours évident. Je me dis, mais est-ce qu'on a tellement soif, comme on l'a chanté ce matin, d'être dans sa présence, qu'on veut rester en dialogue avec lui pendant la journée? C'est vrai que ce n'est pas un évident, c'est un défi. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression que le Saint-Esprit, il veut souffler encore plus de sa vie en nous. Il veut être là, à nos côtés. Et moi, j'ai envie de nous encourager à un défi pour la semaine qui vient. Alors le défi, c'est de prendre chaque jour un temps supplémentaire de ce que vous prenez d'habitude. Alors moi, j'ai mis 15 minutes, mais c'est comme vous décidez. Qu'est-ce que vous pouvez vivre? Et puis de demander à Dieu, justement, qu'il vous encourage à vivre un temps de tête-à-tête avec lui, un temps de rencontre, un temps où, comme on l'a chanté aussi, il vous montre son amour. Il vous montre qu'il est là avec vous. Parce que, voilà, il nous promet que si on s'approche, eh ben lui aussi s'approchera. Parce qu'on est dans le temps entre, justement, l'Ascension et la Pentecôte, et les disciples, ils attendaient Saint-Esprit. Alors nous, c'est vrai, on l'a reçu. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être aussi dans l'attente de recevoir quelque chose de nouveau de Dieu. Une nouvelle révélation, une parole, un encouragement. Quelque chose qu'on a besoin aussi. Venir plus près de Dieu. Et moi, c'est ma prière que ce temps d'attente, ça puisse grandir en nous et mûrir cette soif de lui, cette soif de le rencontrer. Et quand je finissais de préparer, de relire, j'avais vraiment l'impression, Seigneur, il disait, mais j'aimerais tellement qu'il vienne vers moi. J'aimerais tellement qu'il vienne vers moi. Et pour moi, pour chacun d'entre nous, Dieu est là. Et puis, en même temps, j'avais cette petite voix et ce chant, parce que Lorénie, hier soir, elle m'envoyait encore, ah, est-ce qu'on pourrait encore changer ça et ça? Puis avec le chant, Jésus, tu es là. Puis j'étais là, c'est ça en fait, c'est ça. Jésus, tu es là. Et Dieu, il m'a fait un cadeau après, pendant toute la soirée, jusqu'à ce que je finisse, que je sois dans mon lit, et tout le matin, Jésus me répète, Jésus, je suis là, je suis là, je suis là. Et moi, j'aimerais vous encourager pendant cette semaine à vous rappeler ça pendant la journée. Je suis assis là. Il y a un des chants, ça reprenait le psaume 139 qui dit « Quand je m'assieds, Jésus, tu me vois. Quand je me lève, tu me vois. Quand je marche, tu me vois. Quand je me couche, tu me vois. » Et vous rappelez tout au long de la journée, vous allez aller manger, Jésus, il est là. Jésus, tu es là. Vous allez aller faire une sieste peut-être, Jésus, tu es là. Vous allez faire plein d'activités, Jésus, tu es là. Et toute la semaine, et moi je me dis, mais si seulement on arrive à méditer cette petite phrase pendant la semaine pour réaliser à quel point Jésus, il est là, mais tout le temps. Ce matin, je plaisantais à moitié, mais je disais à mon mari, quand j'étais au salon, je disais, regarde, Jésus, il est là, viens, assis-toi. Puis s'assoit où il était assis, plus ou moins. Puis il me dit, je m'assois sur les genoux de Jésus. Je dis, si tu veux, mais prends un moment pour parler avec Jésus. Alors voilà, moi j'aimerais vous inviter à prendre un petit temps de prière, et puis vous placez simplement devant Jésus, parce que finalement Jésus, il est juste là maintenant avec nous. Et on peut lui parler, on peut partager nos cœurs, ce qu'on a là, et puis lui demander qu'il nous rende plus assoiffés. Peut-être finir par une prière et après laisser un temps de prière libre. Seigneur, moi je te remercie pour cette grâce immense, de ce que tu nous révèles aussi comme aux disciples, qu'on n'a pas à être triste de ton départ, mais on peut être dans la joie parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Tu es parti, mais en même temps tu n'es pas parti, parce que tu es toujours présent dans nos cœurs. Tu es vraiment vivant. Et je prie, Saint-Esprit, que tu parles à nos pensées, que tu nous rappelles cette petite phrase. Je suis là. Jésus, tu es là. C'est comme si mon âme, notre âme, elle avait besoin de se rappeler. Jésus, tu es là. Seigneur, que pendant cette semaine, on puisse prendre ce temps avec toi pour te rencontrer, pour découvrir un peu plus de qui tu es, pour partager nos cœurs et nous rappeler à chaque instant. Jésus, tu es là et tu nous aimes.